Chapitre 2. Cependant, résolu à combattre cette sensibilité d'amour-propre, Claude Forest attendit d'un air impassible l'approche de Tom Capel, son ancien camarade, qui venait de paraître à l'entrée de la galerie. Il escortait deux jeunes demoiselles très élégantes, dont l'une devait être sa sœur, à en juger par la ressemblance des traits et de la tournure. Il avançait d'un air languissamment ennuyé, tandis que les deux compagnes s'attardaient à quelque étalage. Tout à coup, ses yeux s'arrêtèrent sur Claude. Il hésita une minute, mais la première surprise passée, il vint droit au piano. « Que diantre faites-vous ici ? » dit-il en tendant la main à Claude. « Il y a au moins 10 ans que je ne vous ai vu. »« Mettons la moitié, » répondit Claude. « C'est possible. Il me semble que j'ai vécu un siècle depuis le jour où nous avons quitté l'uniforme bleu de l'école, vous et moi. Qu'avez-vous fait tout ce temps-là ? Voyager ? Vous vous proposiez d'étudier la musique, si je ne me trompe. Ça vous a-t-il mené loin ? Pas encore très loin, » dit Claude en riant. « Voici ma première étape. »« Allons donc, Forest. Vous ne voulez pas dire que vous faites partie de cet établissement ?» « C'est pourtant vrai, mon cher. L'école des Blue Coats mène à tout, vous voyez. Non que j'ai l'intention de planter ici ma tente d'une manière définitive, mais pour le moment, je ne suis pas une connaissance à cultiver. » L'air surpris de Tom Capel se changeait peu à peu en un sourire plein d'affabilité. « Mais comment donc ? Au contraire, » fit-il en agitant la main. « La vie a des hauts et des bas pour chacun. » « Je suis charmé de vous retrouver dans n'importe quelle circonstance. Tenez, je vais vous présenter à ma sœur. Elle n'a pas de préjugés bourgeois. Elle adore les artistes, tout ce qui sort des cadres, tout ce qui est en soi peu bohème, vous savez ?»« Dans ce cas, je n'ai aucun droit à l'honneur de sa connaissance, » répondit froidement Claude Forest. Tom Capel, au lieu de se sentir congédié, insista. Il était né patron des arts. « Ma mère donne des matinées musicales, » reprit-il. « Elle a déjà lancé plusieurs débutants. Venez nous voir, ça vous mettra à flot. Je sais que vous avez du talent, je vous recommanderai. » « Ne vous faites pas mon garant, » répondit Claude. « Comme pianiste, je suis médiocre. »« Ah, c'est fâcheux, mais venez nous voir tout de même. Voici mon adresse. » Il posa sa carte sur le piano et, voyant que sa sœur l'appelait d'un geste impatient, il s'éloigna. « Jeune snob !» murmura Claude en haussant les épaules. 5h30 venait de sonner, marquant le terme de sa tâche du jour. Il se hâta de fermer le piano, prit son chapeau et sortit. Au dehors, la nuit noire avait remplacé la nuit jaune. Claude frissonna dans son mince pardessus et, précipitant sa marche, s'enfonça dans ce dédale de rue plébéienne qui s'étendent entre le commerçant Oxford Street et l'opulente Portland Place. Bientôt, cependant, il ralentit son pas et hésita un instant. « Elle se fâchera si j'ai l'air de l'attendre, » murmura-t-il, « mais je peux m'arranger à la rencontrer par hasard. » Il passa sur l'autre trottoir et, allumant un cigare, se promena de long en large sans perdre de vue certaines portes qu'éclairait vaguement la flamme du réverbère entourée d'un halo de brouillard. Au bout d'un quart d'heure, la porte s'ouvrit. Une forme svelte de jeune fille parut dans la baie lumineuse, puis descendit rapidement les marches du perron. Elle serra autour d'elle son grand waterproof, la porte se referma et la rue parut plus obscure qu'auparavant. Claude laissa la jeune fille s'éloigner, mais quand elle eut tourné l'angle du trottoir, il quitta son poste d'observation et la rejoignit en 2 minutes. « C'est bien vous, Miss Beaumaris ?» fit-il en s'arrêtant, comme s'il la reconnaissait tout à coup. Elle tourna vers lui un charmant visage qu'encadrait un petit chapeau très simple. « Comment vous trouvez-vous ici, monsieur Forest ? Je fais une promenade hygiénique avant de rentrer. Qu'est-ce que vous portez là ? Permettez-moi de vous en débarrasser. » Elle lui tendit son portefeuille et soupira. « Ces coquins d'enfants vous ont encore fait la vie dure, je gage. N'y pensez plus, Miss Beaumaris. » « Je le voudrais bien, » dit-elle avec un nouveau soupir, « mais ma corvée n'est pas encore finie. Tenez, j'ai là, » elle jeta à son portefeuille un regard désolé, « j'ai là 2 morceaux très difficiles à étudier ce soir, comme si 4 ou 5 leçons par jour ne suffisaient pas à me faire prendre l'existence en horreur. « Ah, monsieur Forest, la musique est le tourment de ma vie !» Elle pencha la tête d'un air accablé. « Cette Dolly Capel, reprit-elle au bout d'un instant, fait des progrès ridicules. Je n'y suis pour rien, je vous assure. Ce n'est certes pas moi qui lui communique ce qu'elle appelle le feu sacré. Je suis un vrai éteignoir, ne me dites pas le contraire. Dans 6 mois, on lui donnera un autre professeur, mais en attendant, elle me fait souffrir le martyre avec son Rubinstein et son Brahms et son Chopin et toutes ces élucubrations que je dois étudier 15 jours à l'avance. Pourtant, on dit qu'il ne faut pas se quereller avec son pain, surtout quand il est bien beurré. Qu'avez-vous fait aujourd'hui, monsieur Forest ? J'ai fait comme vous, j'ai joué le musicien malgré lui. À propos, votre élève, Miss Capel, a-t-elle un frère nommé Tom, un jeune homme très affable qui protège les arts ? Vous le connaissez, dit-elle. Il joue du banjo et chante des chansons nègres. Moi, petit noir, dire à bon massa blanc, etc. C'est très touchant, je vous assure. Je comprends cela bien mieux que les rhapsodies hongroises. Claude Forest avala sans sourciller cette hérésie choquante. Il la trouva même charmante, venant d'Olive Beaumaris. Ils arrivaient à l'entrée d'une rue, d'apparence modeste et respectable, Beaumont Street. Ils s'arrêtèrent devant une maison en briques, étroite et haute, serrée entre 2 voisines absolument semblables. La façade noircie par la fumée était plate comme une carte. Aucune saillie, aucune corniche n'en rompait l'uniformité. La fenêtre du rez-de-chaussée était garnie de 3 plantes de buis dans des pots de faïence bleue vernissée. À droite de la porte, un escalier de service, séparé du trottoir par une balustrade de fer, descendait dans les régions intérieures. Un vitrage bariolé qui surmontait la porte laissait apercevoir la lampe suspension du vestibule et éclairait l'étroit perron d'une lueur multicolore. Comme Claude mettait la clé dans la serrure, Olive Beaumaris lui dit à demi-voix « Tâchez de n'être pas vue de Miss Picknell. Si elle apprend que nous sommes encore revenus ensemble, j'aurai un sermon après le dîner. » Claude monta donc sans bruit jusqu'à sa chambre, qui était au 3e étage. Une petite flamme de gaz y brûlait en l'attendant, éclairant un lit fort modeste, 2 chaises canées, un lavabo peint en jaune et une table de toilette surmontée d'un grand miroir ovale, dans l'embrasure de la fenêtre à laquelle faisait face un très beau piano. C'était un Érard qui avait appartenu à la mère de Claude Forest. Il avait perdu de sa sonorité, mais gardait une qualité de son admirablement délicate et moelleuse. Miss Picknell, gardienne des saints principes d'hygiène et de convenance, avait poussé les hauts cris en voyant un piano s'installer dans une chambre à coucher. Elle avait déclaré qu'un vrai gentleman ne met les pieds dans sa chambre que pour y dormir et qu'au surplus, son modeste salon du rez-de-chaussée, aussi bien que son propre piano, était à la disposition de Monsieur Forest. Mais Claude déclara que ses élucubrations musicales réclamaient la solitude, qu'une chambre au 3e, surplombant un panorama de cours et de murailles, était le seul endroit où son inspiration put prendre l'essor. Il remporta la victoire, mais baissa d'un degré dans l'estime de Miss Picknell. Miss Tabitha Picknell, ayant consacré sa jeunesse à enseigner l'urbanité et le maintien dans un pensionnat de jeunes demoiselles en province, était d'une rigueur inflexible sur le chapitre des convenances. Rien n'échappait à son œil redoutable. S'il vous arrivait de croiser les jambes en sa présence, vous étiez à jamais perdu dans son opinion. Elle avait une façon de dire « de mon temps » ou « dans ma jeunesse » qui vous faisait sentir combien le maintien avait dégénéré depuis que Miss Picknell ne l'enseignait plus aux jeunes demoiselles. Son front sévère était toujours couronné d'un de ces bonnets étranges dont les modistes anglaises ont le secret et qui tiennent à la fois de la tiare et du moule à pudding. Elle était maigre et de petite taille, mais son grand air de dignité ainsi que des souliers à talons la rehaussaient singulièrement. Elle possédait un grand médaillon rempli de cheveux de famille qu'elle portait en broche le matin et le soir en bracelet sur un large ruban de velours noir. Elle marchait sans avoir l'air de remuer, comme si elle eût été montée sur des roulettes et poussée à droite et à gauche par un mécanisme indépendant de sa volonté. Rien dans votre démarche, disait-elle aux jeunes personnes de sa connaissance, ne doit faire soupçonner que vous avez des jambes. Miss Picknell était d'ailleurs une excellente personne, pleine de sollicitude pour ses pensionnaires, mais elle se courrouçait fort si l'on appelait sa maison un garni. C'était une résidence particulière, aux avantages de laquelle deux ou trois messieurs d'habitude paisible étaient admis à participer. La chambre contiguë à celle de Claude était occupée par le caissier d'une importante maison de banque qui s'indignait d'être logé au troisième, s'en plaignait chaque jour en termes amers, parlait constamment de rendre ses clés à Miss Picknell et restait cependant retenu par quelque influence secrète. Il avait doublé le cap de la quarantaine et commençait à prendre de l'embonpoint, bien qu'il observât un régime sévère. Son nom était Gibson. Les deux pièces du second étage, une chambre à coucher et un salon, formaient l'appartement de M. Ferrol, gentleman aux allures mystérieuses et taciturnes, fortement soupçonné d'appartenir à la rédaction d'un journal phrénologico-chiromantique intitulé « Le crâne et la main ». Il n'avait jamais fait d'aveu complet, mais M. Gibson, traversant un jour le Strand, avait distinctement vu M. Ferrol s'engloutir dans le bureau du dit journal, portant sous son bras un rouleau d'épreuves toute fraîche. M. Ferrol avait confessé lui-même, dans un moment d'extrême expansion, que les études nécessitées par sa vocation étaient d'une nature très spéciale, presque occulte. À partir du premier étage, en descendant, Miss Picknell régnait sans contrôle. Sa chambre à coucher et celle d'Olive étaient contiguës. Le salon commun et la chambre à manger étaient au rez-de-chaussée, cette dernière ayant vue sur une cour tapissée de lierre et hantée par quelques moineaux qui s'y croyaient à la campagne. Quant aux régions souterraines où s'agitait la domesticité, Miss Picknell n'y faisait jamais la moindre allusion. De mémoire de pensionnaire, nul ne l'avait vu descendre à la cuisine, bien que la fabrication des puddings lui fût attribuée par une légende tenace.